présenté ce soir par Vianney Smiarowski. Bonsoir Vianney.
Bonsoir. Au cinquième jour de mobilisation en Catalogne, des milliers d'indépendantistes arrivent dans les rues de Barcelone. Une manifestation gigantesque après la condamnation de leurs dirigeants par la justice espagnole. Nous retrouverons notre correspondant sur place. L'Union européenne ne trouve pas d'entente sur son élargissement à la Macédoine du Nord et à l'Albanie. Emmanuel Macron, lui, s'y oppose et paraît plutôt isolé. En Syrie, le président turc Recep Tayyip Erdogan lui maintient son ultimatum. Il reprendra son offensive mardi soir si les Kurdes n'ont pas quitté la zone prévue dans la Il ira jusqu'au bout pour la création d'une zone de sécurité. Un geste agressif des alliés américains, ça ce sont les mots de Bruno Le Maire. Réaction du ministre des Finances après l'application des droits de douane punitifs infligés par les États-Unis. Nous l'entendrons. Patrick et Isabelle Balkany condamnés pour blanchiment de fraude fiscale. Aujourd'hui, en revanche, ils ont été relaxés pour les faits de corruption. Nous reviendrons sur le droit de retrait des conducteurs et contrôleurs de la SNCF. Le trafic est très perturbé aujourd'hui et puis nous entendrons la colère de certains présidents de département. Le congrès annuel de l'Assemblée des départements de France s'est terminé par quelques tensions. Une marée humaine en Catalogne après une nouvelle nuit de barricades. Les indépendantistes se réunissent massivement à Barcelone, présentés comme le point d'orgue de leur mobilisation. Après la condamnation donc de leurs dirigeants par la justice espagnole, journée de grève générale, des milliers de manifestants sont partis mercredi de 5 villes catalanes, une marche de la liberté. Cinquième jour de mobilisation et autant de cortèges qui arrivent donc dans les rues de Barcelone, Thibault Lefebvre.
Oui, à 5 cortèges très exactement. Ils sont partis des quatre coins de la Catalogne et ils terminent de converger vers le cœur, le centre de Barcelone, au niveau de l'avenue Diagonale. C'est pas loin des Jardins de Gracia, dans une ambiance, écoutez, familiale, bon enfant, beaucoup de jeunes manifestants qui portent très haut les couleurs jaune, rouge et bleu du drapeau catalan. C'est un véritable coup de force des indépendantistes, car les principales voies de circulation de Barcelone sont totalement coupées à la circulation. Elles sont occupées par des dizaines de milliers de personnes et ils chantent en chœur l'hymne catalan, ils crient des slogans en faveur de la libération des leaders indépendantistes condamnés lundi. Tous ici ont un mot à la bouche, pas de violence. Ils ont à cœur de démontrer que le mouvement est politique, il est pacifiste. Et pourtant, tout le monde s'attend ici à une nouvelle soirée de violence, peut-être plus importante que les quatre précédentes nuits d'émeute, avec depuis hier présents à Barcelone des éléments radicaux de gauche comme de droite. Les forces de l'ordre sont sur les dents. Elles ont d'ailleurs fait face tout à l'heure près de la préfecture au premier jet de pierre. Ils venaient de manifestants, les manifestants les plus jeunes, rassemblés dans un cortège autonome.
Thibault Lefebvre en direct de Barcelone et à moins d'un mois des élections législatives, le numéro 2 du gouvernement espagnol Carmen Calvo lance un appel au calme. Le Brexit, lui, n'a pas encore dit son dernier mot après l'accord trouvé avec les Européens. Boris Johnson doit encore obtenir la ratification du texte par la Chambre des communes. Le vote a lieu demain lors d'une séance extraordinaire. Pour qu'il soit ratifié, il faut qu'au moins 318 élus se prononcent en faveur du texte sur un total de 650 voix. Mais le DUP, le parti unioniste démocrate en Irlande du Nord, annonce qu'il votera contre, tout comme ses alliés conservateurs au pouvoir et les trois principaux partis d'opposition. Pendant ce temps-là, les pays de l'Union européenne paraissent toujours aussi divisés. Après plus de 6 heures de discussions compliquées, ils n'ont pas réussi à s'entendre sur l'élargissement de l'Union européenne. Après l'échec de l'ouverture des négociations d'adhésion avec la Macédoine du Nord et l'Albanie, la France fait partie des trois pays à l'origine de ce blocage. Emmanuel Macron s'oppose pour l'instant au processus d'élargissement de l'Union européenne et il paraît un peu isolé, Marie-Pierre Vérou.
Et oui, le dîner s'est pourtant prolongé jusqu'à 2h du matin hier, mais en vain. Impossible de parvenir à un consensus et la France montrée du doigt. Jean-Claude Juncker déplore la fermeture de Paris.
Le Conseil européen, dont sa majorité aurait bien voulu, mais il y avait certains États membres qui n'étaient pas encore prêts. C'est une lourde erreur historique, une lourde erreur historique.
Emmanuel Macron n'était pas seul, il tient à le faire savoir, mais il assume son refus d'ouvrir la porte à la Macédoine du Nord et à l'Albanie. Les réformes demandées ne sont pas au rendez-vous, estime le président français, qui a cité pour l'Albanie la faible lutte contre les filières d'immigration vers la France et le risque de dévoyer l'asile. Et puis, l'Europe non plus n'est pas prête, martèle Emmanuel Macron. Sachons d'abord nous réformer nous-mêmes, il faut avancer plus vite.
J'ai rappelé chacun à la cohérence. Ça ne marche pas bien à 27, comment on explique que ça marche mieux à 28, 29, 30, 32? Deuxième point, les mêmes qui nous disent, la main sur le cœur, il faut élargir, nous disent « je veux un budget à 1% ». Quand la tartine est plus grande et qu'on met moins de beurre, faut étaler le beurre, on finit par plus le voir. Et bizarrement, à la fin, ça a un goût de tartine.
Peu avare d'image, Emmanuel Macron a aussi déploré que l'Europe avance parfois comme un canard sans tête sur ces sujets. Paris souhaite réformer la procédure d'élargissement jugée trop bureaucratique, pas assez politique. Mais surtout, la France estime que dans un monde de puissance, l'Europe, si elle veut peser, a besoin de plus de muscles, de cohérence et non de se diluer. Au-delà du cas de la Macédoine du Nord et de l'Albanie, c'est donc un véritable désaccord sur la vision de l'Europe qui s'est exprimée à la table du Conseil.
Marie-Pierre Véraud, depuis Bruxelles. Après un cessez-le-feu qui peine à être respecté au nord-est de la Syrie et 14 civils tués selon une ONG, Emmanuel Macron estime que l'offensive militaire de la Turquie contre les Kurdes est une faute lourde de l'Occident et de l'OTAN. Il parle d'une folie, dit qu'Ankara sera complice en cas de résurgence du groupe État islamique. Le chef de l'État doit rencontrer le président turc Recep Tayyip Erdogan dans les semaines à venir avec Boris Johnson et Angela Merkel. Le président turc a quant à lui annoncé qu'il reprendrait son offensive dès mardi soir si les forces kurdes ne se retirent pas comme prévu dans l'accord de trêve. Il ira donc jusqu'au bout de son opération, comprendre jusqu'à la création d'une zone de sécurité. Ankara veut y renvoyer une partie des réfugiés accueillis sur son sol. Les explications d'Anne Handlauer.
Une vaste bande de terre de 32 km de profondeur sur 444 km de long, collée à la frontière turque, dans le nord de la Syrie, entre le fleuve Euphrate et l'Irak. C'est là que Recep Tayyip Erdogan veut créer une zone dite de sécurité. Le chef de l'État turc y voit deux avantages, chasser les forces kurdes du voisinage de son pays, puis y renvoyer entre 1 et 2 millions de Syriens sur les plus de 3,5 millions réfugiés en Turquie. Dans l'immédiat, le président turc peut crier victoire. Washington a acté le principe de cette zone tampon et aux conditions d'Ankara. Mais beaucoup d'inconnus demeurent. Où vont se rendre les forces kurdes qui se retirent de la zone? Qui la contrôlera? Ankara affirme que son armée va s'en charger, mais on sait que le régime syrien ne veut pas d'une présence durable des Turcs sur ses territoires. Quid des grandes villes de Manbij, Kobané, Kamishlo? Il va falloir négocier pied à pied avec le président russe Vladimir Poutine, parrain du régime de Damas. Recep Tayyip Erdogan le rencontrera mardi à Sotchi. Dans l'hypothèse enfin où ces détails seraient réglés, on voit mal comment la Turquie pourrait financer seule les infrastructures nécessaires au retour des réfugiés. Ankara regarde du côté des Occidentaux qui n'ont pourtant aucune intention de mettre des milliards dans le projet de Tayyip Erdogan. Sans même parler des règles de droit humanitaire qui interdisent de renvoyer de force des Syriens dans leur pays, qui plus est dans une zone dont l'immense majorité n'est même pas originaire.
À Istanbul, Anne Handlauer. Les sanctions douanières américaines contre les produits européens sont entrées en vigueur aujourd'hui. Des taxes douanières punitives sur 7,5 milliards de dollars parce que l'Europe a subventionné Airbus. L'Union européenne, elle estime qu'elle n'a pas d'autre choix que d'appliquer des représailles. Elle devrait être autorisée par l'OMC dès l'an prochain à imposer à son tour des sanctions douanières contre les États-Unis, accusés eux d'avoir subventionné Boeing. En déplacement à Washington, le ministre des Finances Bruno Le Maire, lui, ne cache pas sa colère. Il parle d'un geste agressif des alliés américains.
Aller frapper nos viticulteurs, et les viticulteurs qui sont les plus modestes, qui peuvent se trouver dans le Bordelais, dans la Bourgogne, dans le Languedoc-Roussillon, dans la région du Rhône, et qui vont voir leurs exportations vers un des marchés les plus dynamiques, qu'est le marché américain, diminuer à hauteur d'environ 300 millions d'euros en 2020, c'est un geste agressif. Donc c'est une erreur économique, parce que bien entendu ça va réduire les échanges entre les États-Unis et l'Europe, et c'est aussi une erreur politique, parce que ce ne sont pas des pratiques entre alliés. Donc nous proposons, et je proposerai aujourd'hui à tous mes interlocuteurs américains, le conseiller économique du président Trump, le représentant au commerce, le ministre des Finances américain, que nous rentrions dans une logique de négociation. C'est la voie de la sagesse. Mais nos amis américains doivent savoir que si jamais ils ne rentrent pas dans cette logique de négociation pour trouver une solution négociée entre l'Europe et les États-Unis, nous sommes prêts à répliquer aux sanctions américaines. S'il n'y a pas de solution négociée, nous frapperons à notre tour.
Le ministre des Finances Bruno Le Maire au micro de Grégory Philips.
Al-Oula, merveille d'Arabie. Je vous parle d'un site encore presque inconnu.
Vous avez certainement reconnu Jacques Lang faisant la promotion d'Al-Oula, un site majestueux en plein désert saoudien. Bonjour Philippe Reltien.
Bonjour.
Il se trouve que ce site est au cœur d'une puissante machine de communication mise en place par l'Arabie saoudite pour redresser son image.
Oui, une image passablement abîmée par la guerre au Yémen et l'affaire Khashoggi. Alors Al-Oula, c'est quoi ? Eh bien, c'est un site vieux de plus de 7000 ans que les Saoudiens veulent transformer en super Petra pour accueillir 2 millions de touristes par an. Et ils ont demandé à un Français, l'ancien PDG d'Engie, Gérard Mestrallet, de bien vouloir piloter le projet depuis Paris.
Un concours d'architecte a été lancé et un jury a recommandé le choix du projet de Jean Nouvel. Donc Jean Nouvel, effectivement, va réaliser sur place un projet assez extraordinaire, un hôtel construit intégralement à l'intérieur de la roche, à l'intérieur de la montagne.
Mais il n'y aura pas que des hôtels, on doit aussi construire des musées, des routes, faire circuler un train, amener l'eau, l'électricité. C'est un contrat monumental avec à la clé au moins 10 milliards de dollars de retombées.
Riyad veut donc s'appuyer sur la culture pour briller, mais ça ne marche pas à tous les coups.
Non, et voilà un exemple. L'Arabie Saoudite s'est dit qu'elle pourrait aussi avoir sa Joconde à elle. C'est pourquoi, selon la presse américaine, le prince Salman a fait acheter aux enchères la toile la plus chère du monde qu'on appelle le Salvator Mundi. Un chef-d'œuvre de Léonard de Vinci, payé 450 millions de dollars, sauf qu'il y a débat, doute, pour le grand expert français en la matière Jacques Franck, qui travaille pour le Louvre, cette toile n'est pas de la main de Léonard de Vinci, et donc il y a doute sur l'authenticité et sur la valeur de l'œuvre.
Le fait de posséder un véritable Léonard de Vinci, c'était un prestige absolu, c'était quasiment le mythe, l'Eldorado, et c'était totalement inespéré. Et malheureusement, ça retombe à plat.
Ça retombe à plat, mais pour contrôler l'image du royaume, le prince héritier dispose de bien d'autres cartes. Une batterie de trolls, par exemple, qui agissent sur Twitter. Écoutez ainsi ce qui est arrivé au formateur de technicien du pétrole Ludovic Leroy lorsqu'il s'est permis de mettre en doute la parole du prince Salman.
Je me retrouve avec une nuée de personnes qui s'abonnent à mon compte Twitter et qui me menacent, donc soit en arabe, soit en anglais. On me souhaite de la peine de mort, en fait, parce que les gens ont compris que je me rends régulièrement en Arabie Saoudite et me promettent de me faire arrêter et d'être condamné à mort.
Alors ça, c'est plutôt pour le côté obscur de la com saoudienne, mais on soigne aussi son image plus positivement.
Oui, notamment grâce à l'aide de cautions morales, des grands noms qui sont autant de brevets de respectabilité pour le régime. Et ça, c'est l'ex-diplomate Pierre Conessa qui le fait remarquer.
On va chercher des personnalités parisiennes. Personnalités parisiennes, c'est par exemple Attali, le conseiller économique de Mohamed Ben Salman. On s'adresse à Jean Nouvel. C'est aussi une manière de s'acheter, si vous voulez, un carnet de relations. Donc vous avez un certain nombre de ces personnalités parisiennes, non pas comme propagandistes, mais disons comme collaborateurs positifs.
Et le dernier pilier de cette stratégie de com repose sur ce qu'on appelle le soft power, l'influence douce. On invite des parlementaires à Riyad et on leur fait passer des messages. Le député La République En Marche, Fabien Goutfard, a ainsi été invité au centre de commandement de la guerre au Yémen, à Riyad. Et voilà ce qu'on lui a montré.
Ce qu'ils nous ont expliqué, c'est-à-dire les green box, les red box, c'est-à-dire en gros les zones qui soi-disant sont sauvegardées, sanctuarisés, les green box, on ne peut pas frapper, donc les hôpitaux, les écoles, etc. Tout ça nous a été montré, et le problème c'est que tout ça, quelques mois après, a été contredit par des frappes sur des bus scolaires.
Et ce genre de voyage est fréquent, mais on fait aussi venir des élites culturelles en Arabie Saoudite. Ça a été le cas récemment pour des acteurs comme Vincent Cassel, comme le DJ David Guetta ou encore le violoniste Renaud Capuçon.
Philippe Reltien, la redoutable machine de com de l'Arabie Saoudite. C'est donc une enquête à retrouver en intégralité demain à 13h20 sur France Inter. En France, Patrick et Isabelle Balkany condamnés à nouveau aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Paris pour blanchiment de fraude fiscale. Mais ils ont été relaxés pour les faits de corruption. 5 ans de prison avec un nouveau mandat de dépôt pour Patrick Balkany. 10 ans d'inéligibilité et confiscation de leurs biens immobiliers. Lui n'était pas présent. Il a refusé de sortir de sa cellule. Isabelle Balkany est quant à elle condamnée à 4 ans de prison ferme, mais elle n'est pas incarcérée. Bonsoir Florence Thurme.
Bonsoir.
C'est néanmoins une peine plus lourde que celle requise par le parquet.
Oui, Isabelle Balkany est restée assise aux côtés de son avocat durant toute la lecture du jugement. Au moment de l'énoncé de la peine, elle revient à la barre près de son fils Alexandre. Il passe son bras autour de sa taille. 4 ans de prison ferme, 10 ans d'inéligibilité pour blanchiment de fraude fiscale, alors que le parquet n'avait requis qu'un simple sursis et une amende. 5 ans d'emprisonnement, un nouveau mandat de dépôt et 10 ans d'inéligibilité pour l'absent Patrick Balkany. Le président insiste sur la gravité des infractions pénales, l'atteinte à l'ordre public et économique, la déchirure du pacte républicain. Isabelle Balkany quitte le tribunal sur cette courte déclaration.
Comme nous l'avons toujours dit et comme cela a été confirmé publiquement et officiellement aujourd'hui, il n'y a pas un centime d'argent public, c'est uniquement notre patrimoine familial et il n'y a pas de corruption.
pas de condamnation pour corruption. Effectivement, le tribunal considère que les preuves matérielles n'ont pas été rapportées d'un pacte entre Patrick Balkany et Mohamed Al-Jaber, l'homme d'affaires saoudien. L'accusation soutenait qu'il avait offert un riad à Marrakech aux époux Balkany en échange de délais de paiement dans un juteux projet immobilier à Levallois. La peine infligée par ailleurs à Patrick Balkany apparaît donc bien trop lourde aux yeux de son avocat Antoine V.
D'un côté, pas de pacte de corruption, pas de trafic d'influence, et surtout ce que dit ce jugement, c'est absolument pas un euro d'argent public qui aurait été détourné au bénéfice du couple Balkany. Nous ferons appel de ces deux jugements, et on a envie de dire aujourd'hui, c'est pas la priorité. La priorité aujourd'hui, c'est que Patrick Balkany n'a absolument rien à faire en détention, que son état de santé se dégrade, et qu'il est temps qu'on puisse le remettre en liberté pour qu'il puisse préparer sa défense libre devant la cour d'appel dans les prochains mois.
Il y aura donc un deuxième procès quant à la demande de mise en liberté de Patrick Balkany. Elle sera examinée mardi prochain.
Florence Sturm, la justice française a également émis un mandat d'arrêt international aujourd'hui contre Abou Bakr al-Baghdadi, le calife autoproclamé du groupe État islamique. Même chose contre l'ancien porte-parole de l'organisation, présumé mort, Abou Mohamed al-Adnani. Ces mandats d'arrêt ont été délivrés dans le cadre d'une information judiciaire ouverte le 8 octobre dernier par le parquet national antiterroriste pour direction ou organisation d'associations de malfaiteurs terroristes criminels. C'est une véritable pagaille si vous devez ou si vous deviez prendre le train aujourd'hui. Les conducteurs et les contrôleurs de la SNCF ont fait valoir leur droit de retrait après un accident avant-hier dans la région Grand Est. 11 personnes ont été blessées, dont le conducteur du train. Une réunion a eu lieu ce matin entre la direction et la CGT. Le syndicat réclame la présence obligatoire d'un contrôleur par train, puisque le conducteur blessé lors de cet accident était le seul agent de la SNCF à bord du train. Cette utilisation du droit de retrait n'est en tout cas pas du goût de la Fédération nationale des usagers de transport. Écoutez son président, Bruno Gazot.
Le droit de retrait répond à une menace grave et imminente, et c'est pour ça qu'il est individuel, alors que le droit de grève est organisé pour qu'il y ait un dépôt de préavis et ensuite l'obligation de se déclarer gréviste. Pour la SNCF ensuite de faire un plan de transport et pour les usagers, ça leur permet d'être informés et de pouvoir s'organiser. Ce qui est intolérable dans le droit de retrait tel qu'il est pratiqué collectivement, c'est que les usagers n'ont aucun moyen de prévoir les choses, ils n'ont aucun moyen de s'organiser, ils sont pris en otage quasiment pour la journée, donc ça c'est absolument inadmissible, d'autant que le problème qui est posé, celui d'un deuxième personne à bord, n'est pas un problème qui se traite en deux heures.
Bruno Gazot, le président de la Fédération nationale des usagers de transport. Coup d'éclat au congrès annuel de l'Assemblée des départements de France. C'était hier et aujourd'hui à Bourges et de nombreux élus ont quitté la salle pendant le discours de clôture de la ministre Jacqueline Gourault. Ils sont allés chanter la Marseillaise dans les couloirs. La plupart des présidents de départements sont en colère contre la réforme de la fiscalité locale et la suppression de la taxe d'habitation. Stéphane Robert.
La suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages a été votée à la mi-journée.
Le scrutin est clos. En voici le résultat
par les députés à l'Assemblée nationale à Paris.
Pour 34 contre 20, l'article 5 est donc adopté, mes chers
pratiquement
collègues.
Au même moment, à Bourges, la ministre des Territoires, Jacqueline Gourault, délivrait la parole gouvernementale en clôture du congrès annuel de l'Assemblée des départements de France.
J'en viens à la réforme fiscale proprement dite.
Elle a essayé de temporiser, Jacqueline Gourault, d'apaiser la colère des élus locaux qui grondaient en sourdine.
Je rappelle que c'est un engagement de campagne du président de la République. Ben oui, ben vous qui êtes tous des élus, s'il vous plaît, vous qui êtes tous des élus, quand vous faites des engagements, quand vous vous présentez à une élection, je pense que vous les tenez. Et vous ne pouvez pas le reprocher au président de la République d'avoir tenu ses paroles.
Parce que la conséquence de cette suppression de la taxe d'habitation est qu'on va transférer les 14 milliards de la taxe foncière que percevaient jusqu'ici les départements aux communes et qu'on va la remplacer par une fraction de TVA. Et le problème des élus locaux est qu'ils n'ont pas la main sur la TVA. Ils ne peuvent pas en modifier le taux pour ajuster leur budget. La plupart d'entre eux se sont donc levés pendant le discours de la ministre. Ils ont quitté la salle et sont allés dans le hall chanter la Marseillaise en signe de protestation. Ça fait maintenant 2 ans et demi que les questions budgétaires empoisonnent les relations entre Emmanuel Macron, son gouvernement et les collectivités territoriales qui réclament à grands cris une nouvelle étape de la décentralisation.
Le reportage de Stéphane Robert. Un mot du temps pour terminer. Ce sont les nuages qui dominent le plus souvent demain. Ciel variable sur la partie nord-ouest, un peu plus d'éclaircies des pays de la Loire jusqu'au Hauts-de-France. Les pluies seront plus importantes à l'est, l'Alsace, la Lorraine, l'Auvergne ou encore la vallée du Rhône et vers la côte d'Azur avec des risques orageux. Ailleurs, le ciel est partagé entre nuages et éclaircies. Il y aura du vent aussi jusqu'à 80 km/h dans la vallée du Rhône ou encore sur les crêtes des Pyrénées. Du côté des températures, 15 à 20 degrés au meilleur de la journée sur tout le pays.